C'est très court, hein. C'est désolant d'arrêter ça, mais bon, vous le réécouterez. Alors, pour la petite histoire, Mahler a repris note pour note ce thème au début du mouvement final de la troisième symphonie. Mais peu à peu, c'est tout à fait anecdotique. Alors, deuxième exemple, à l'inverse, toujours dans la voiture que vous avez écoutée hier, toujours dans le bus 127, dans le premier mouvement, dont on parlera beaucoup demain, parce que c'est un mouvement merveilleux qui est souvent négligé à cause de sa proximité avec ce magnifique mouvement lent que vous avez entendu. Mais le premier mouvement est sublime et d'une grande inventivité. Et alors, dans le développement de ce mouvement, il y a un passage, justement, où il se passe l'inverse, une dissociation totale des voix. Alors, justement, pour essayer de vous aider à comprendre, j'ai mis en de couleurs différentes. Vous avez différents types de motifs. Un motif percussif ici, tam, 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 qui va être transmis entre les différentes voix. Et puis, mais à un moment donné, vous avez trois ou quatre éléments différents qui se superposent aux voix. Donc, chaque voix parle son propre langage ou son propre discours de manière un peu indépendante des autres, si ce n'est que c'est coordonné et que les motifs passent d'une voix à l'autre. Donc j'ai mis en rouge le passage ici du motif percussif. Ici vous avez un motif de batterie qui se décompose, qui devient un motif d'arpège. Et puis vous avez un motif d'arpège descendante. Là vous avez un motif d'arpège ascendante. Et là vous avez une sorte de respiration profonde du violoncelle qui fait comme un mouvement de pompe. C'est comme le cœur du quatuor avec une espèce de comme le cœur qui pompe le sang de manière avec un rythme comme ça et qui donne un équilibre au milieu de cette jungle, parce que c'est un combat là. Nous sommes dans le développement du premier mouvement de l'opus 127 et il y a vraiment une lutte entre les instruments et entre les motifs. J'ai arrêté là au moment où arrive, on verra ça demain, le sublime maestoso qui ouvre ce quatuor et qui ouvre le portique, qui est le portique de l'ensemble des derniers quatuors, mais sur lequel on insistera particulièrement demain, parce que c'est vraiment, une inspiration incroyablement forte de Beethoven. Alors, dernier exemple, tout à fait à l'inverse, là nous sommes au contraire dans la linéarité totale avec le 8e quatuor, où là, au contraire, les instruments, vous allez le voir, les instruments dans un passage d'exposition du thème final, les instruments se renvoient un petit motif de trois notes, et dans un ordre totalement aléatoire, il n'y a aucune logique apparente, c'est-à-dire que si on dit je joue après tel instrument, mais ce n'est pas toujours vrai, ça change chaque fois, donc Beethoven est toujours en train de surprendre les autres, et il faut vraiment, la seule ressource ici, c'est de compter bien sagement ses mesures, autrement on est perdu. Et alors, il se passe, musicalement parlant, il ne se passe rien. C'est-à-dire, si vous voulez, j'ai mis en bleu, il y a de petites évolutions harmoniques ici et là, mais globalement, c'est le même motif qui est répété, mais le grand intérêt de ce passage réside justement dans cette espèce de dialogue entre les voix, les quatre voix qui échangent, un motif comme des joueurs de ping-pong ou de tennis se lancerait une balle. Alors, l'exemple qui suit commence par vous présenter le thème initial du rondo, parce que, en fait, ce petit motif, c'est la tête du thème du rondo. Tirim palam palam. Tirim palam palam. Alors, vous avez le tilala, il est là. Tilala, tilala, tilala. Je vous laisse écouter. Un peu. Voilà, on arrive à l'extrait. Et alors là, c'est pareil. Personne n'a jamais fait ça avant Beethoven. Il y a un exemple avant-coureur dans l'opus 76 numéro 4 de Haydn, dans le final, mais là c'est beaucoup plus sage et prévisible, c'est-à-dire c'est violon, violoncelle, alto, second violon, premier violon, donc on sait où on est, on risque pas de se perdre. Hier aussi d'ailleurs, en revanche, si vous avez écouté, bien écouté attentivement, dans le final de ce merveilleux troisième quatuor, il y a déjà un peu ça. Il y a déjà des choses un petit peu bizarres qui se passent, des motifs qui circulent entre les voix et de manière un petit peu aléatoire, beaucoup moins qu'ici. Mais là, c'est tout à fait étonnant. Donc, je reviens à mon propos, mais voilà que j'ai perdu mon propos. Oui, alors, je ne sais plus très bien ce que je voulais dire, mais je voulais surtout parler maintenant, justement, tant pis pour les développements que j'oublierai, de toute façon, le temps passe. Voilà un événement beethovenien. Donc, on va parler de son. Alors, je t'en oublie parce que je ne sais même pas quel est l'exemple musical qui vient. Ah oui, une petite chose. Alors, à propos de quatuor, je ne retrouve pas mon transparent, mais on a parlé d'homogénéité, mais aussi le quatuor, on a dit c'est 4. Alors, je voulais vous dire aussi que le 4, c'est un chiffre impair. Alors, un chiffre pair, pardon. Mais le pair peut générer l'impair, mais pas l'inverse. Par exemple, quand vous avez 4, vous pouvez faire 2 plus 2, mais quand vous avez 5, trouvez-moi une solution pour faire deux groupes pairs. Il n'y a pas de solution. Et voilà, c'est aussi pour ça que le quatuor, dans les grands compositeurs de quatuor, ont écrit, ont subdivisé leur quatuor en couple, notamment Beethoven et souvent Bartok, deux violons contre alto violoncelle, ou voix médiane contre voix extrême. Donc il y a des associations de voix permanentes comme ça, donc couple, ou alors 1 contre 3, 1 plus 1 plus 1, vous avez eu tout à l'heure dans le plus 127, c'était ça, 1 plus 1 plus 1, ils sont tous les quatre en train de faire une chose différente. Et donc le quatuor, c'est ça aussi, c'est non seulement jouer avec l'homogénéité, hétérogénéité des motifs et des thèmes, mais jouer aussi avec les possibilités d'association des voix. Tout ce qu'on peut faire avec le chiffre 4. Alors vous me direz évidemment, 4 c'est limité, on ne peut pas faire du 8. C'est pas tout à fait vrai, parce que certains compositeurs plus tard, enfin Beethoven a commencé un petit peu, mais ça sera surtout le fait de Bartok, il utilise beaucoup d'accords en double corde, et donc on arrive vraiment à avoir 8 sons simultanés. Bien sûr, on peut faire des sons avec des doubles cordes, des accords qui ne sont pas très intéressants, mais Bartok a vraiment écrit parfois des ostinatos extrêmement violents et expressifs à partir de 8 notes. Donc, c'est intéressant de voir que la notion de 4 est opératoire à la fois par le fait que c'est un nombre pair et à la fois par le fait que ce chiffre 4 a sans doute des vertus spéciales, puisque ce que permet le quatuor, le trio ni le quintet ne l'ont pas vraiment permis. Alors, après ces développements sur l'homogénéité et le 4, on va parler de timbre. Et alors, on va commencer justement par un exemple de timbre grinçant. Dans l'opus 131, Beethoven utilise une écriture sul ponticello, c'est-à-dire sur le chevalet, à la fin du presto du cinquième mouvement, qui est un mode de jeu qui sera très utilisé au début du XXe siècle par l'école de Vienne, puis ensuite par Bartok. Alors vous allez voir, il s'agit de la fin du presto, qui est un mouvement tout à fait étonnant, où il se passe aussi beaucoup de choses. Et alors à la fin de ce mouvement, Beethoven déstabilise complètement le son de cette mélodie populaire, et pour en faire cette chose grinçante que vous allez entendre. En fait, là, vous n'avez pas eu seulement du grinçant, vous avez remarqué que ça commence par des pizzicato, donc il y a une grande palette de possibilités sonores différentes. On commence à voir déjà que le quatuor, ce n'est pas seulement des sons bien ronds, comme ceux que vous avez entendus tout à l'heure dans l'opus 135. Et maintenant, un exemple de son scintillant dans le scherzo, dans la partie centrale, le trio de l'opus 132 du 15e quatuor. Thank you. Alors maintenant, je vais vous donner un exemple de son que je dirais sonorité blafarde. Alors, c'est moins spectaculaire, mais c'est assez étonnant. Et là, je vais préparer un petit exemple pour vous montrer comment Beethoven procède. Mais c'est tiré du 11e quatuor que je crois qu'on va entendre ce soir. Et alors, dans l'exemple que vous allez entendre, il y a déjà le début, c'est tout à fait étonnant, le début du violoncelle seul, avec ses notes, ses croches pointées que vous voyez là. Et alors, il y a un moment du mouvement, c'est le deuxième mouvement, le mouvement lent, et dans ce mouvement, il y a un moment où les instruments se réunissent pour faire des accords, mais ils se répondent d'une manière tout à fait étonnante, et vous allez voir que là, c'est par le biais de l'harmonie d'une part, et du rapport entre les accords qui succèdent ici, que se produisent des sonorités tout à fait étranges et blafardes. Donc là, on peut dire que c'est un pivot des moyens classiques de l'harmonie, mais une harmonie renouvelée par Beethoven, qui n'est pas du tout une harmonie ostentatoire, mais justement une harmonie qui sait utiliser des couleurs nouvelles, des couleurs spéciales. Alors là, il y a une chose que je n'avais pas dite, vous avez peut-être remarqué, Beethoven utilise dans la deuxième partie des harmoniques. Donc vous avez une sonorité flûtée, vous avez sans doute entendu. Donc ça aussi, c'est tout à fait intéressant comme type de sonorité. Alors maintenant, je vais vous écouter une sonorité que moi me fascine le plus, mais avant d'y venir, il s'agit de l'opus 131. Mais avant d'y venir, je vais vous faire écouter, il s'agit du mouvement à variation, le quatrième mouvement de l'opus 131, qui commence par, sont des variations sur un thème sublime, qui est un andante. Et alors je vais vous faire écouter le thème pour deux raisons. D'abord parce qu'il est très beau, d'autre part parce qu'il illustre ce que je disais tout à l'heure sur le caractère fusionnel, possiblement fusionnel de l'écriture. Ici, en fait, il s'agit d'une mélodie très simple, mais qui pourrait être jouée par un seul instrument. Mais là encore, le génie de Beethoven, c'est d'avoir divisé entre les deux violons. Alors vous voyez, c'est tout là-haut, je descends. Le premier on fait ça. Deuxième répond. Et en fait, chaque fois, l'instrument qui prend le relais de l'autre reprend la même note strictement que l'ancien. Donc il entre vraiment dans sa sonorité et dans sa note. Donc si vous voulez, alors en fait, vous me direz, mais à ce moment-là, pourquoi ne pas avoir justement fait jouer un seul instrument? Eh bien, c'est parce qu'il y a une tension de l'un vers l'autre qui fait que justement toute la beauté est là. Et si vous faites jouer ça par un seul violoniste, vous n'aurez pas du tout la même chose. Mais cela dit, c'est très difficile parce que il ne faut pas que l'on ait l'impression qu'il y ait deux instruments, et il faut pourtant qu'il y ait deux instruments. Donc c'est tout l'art des interprètes pour rendre vivante la pensée de Beethoven, c'est justement cette dialectique subtile entre la division et la fusion. Alors, ça c'est la première... Oui, on va écouter ça tout de suite. On parlera après de la suite.